France Inter. .fr.
Bonjour Yves Decaen.
Bonjour.
La revue de presse, on ne peut pas imaginer un été sans lui.
Sans lui, le Tour de France, évidemment, c'est après-demain, le départ à Utrecht, aux Pays-Bas, où les coureurs sont tous arrivés maintenant. On ne peut plus imaginer un été sans le Tour de France, comme le dit au 1, dans un hors-série consacré à la Grande Boucle, l'écrivain journaliste Jacques Augendre, qui a suivi 55 Tours de France. Le Tour est entré dans les mœurs, il fait partie de la vie des Français et de la France. Il est même devenu universel, et c'est ce que confirme une enquête du journal Les Échos d'ailleurs. Comment le Tour est devenu le cash machine d'Amaury Sport Organisation? C'est le troisième plus grand événement sportif au monde, après le mondial de foot et les JO. Mais c'est le seul de cette importance qui soit aux mains de propriétaires privés. Un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros, multiplié par 10 en 30 ans, grâce au sponsoring et surtout grâce aux droits télé. D'où l'internationalisation de la course, dont les départs sont de plus en plus exportés en Europe pour l'instant, mais sait-on jamais. Des rumeurs récurrentes, écrit Nicolas Richaud dans Les Échos, font état de contact avec le Qatar, l'éternel Qatar, la Chine et même la Thaïlande. D'ailleurs, dans l'un de ses derniers éditos de l'équipe, c'est ce que nous dit le hors-série de la revue Le 1, il paraît que Jacques Godet, l'ancien patron du Tour, imaginait déjà des étapes en Russie ou en Chine et même une course de côte à San Francisco. Après tout, le Paris-Dakar, autre épreuve d'Amaury Sport Organisation, hein, se fait bien en Amérique du Sud. Alors voilà, le Tour, c'est aussi une caravane publicitaire dont on saura tout également ce matin en consultant l'équipe. 160 véhicules, à peu près 13 kilomètres de long, 35 minutes de défilé, 14 millions de gadgets en tout genre distribués en 3 semaines, 460 000 sachets de mini saucissons d'une marque très connue, etc.
Et à quand une étape en Grèce?
Eh bien ça, c'est pas pour demain, car ce n'est pas gratuit, l'accueil du Tour évidemment. 4 millions d'euros pour le départ à Utrecht, samedi. Ce qu'on attend en Grèce avec inquiétude, c'est le résultat du référendum de dimanche, dont personne ne sait ce qu'il en sortira si le non l'emporte. L'Europe aurait-elle un problème avec la démocratie? C'est ce que pensent les soutiens à Syriza, l'humanité en tête. Ce référendum, pour Patrick Appelmüller, c'est l'arme du faible face au fort. C'est la primauté de la politique et de la volonté populaire. Et oui, c'est un défi démocratique, titre aussi l'hebdomadaire Politis. Et Marianne est d'accord, en dénonçant les dirigeants européens qui se mobilisent, écrit Marianne, pour discréditer la consultation du peuple. Quoi d'étonnant d'ailleurs pour Joseph Massescaron, quand on se souvient, dit-il, qu'on a bien fait voter deux fois les Irlandais et qu'on a convoqué un congrès, le Parlement français, pour que les représentants du peuple désapprouvent un vote du peuple. Voilà, objection, votre honneur, dans Le Monde, Arnaud le Parmentier remet les Grecs à leur place. La voix d'un Grec, dit-il, vaut autant, mais pas plus, que la voix d'un Allemand, d'un Slovène ou d'un Français. Or, quand Tsipras demande un vote pour mieux affronter ses créanciers, eh bien, en réalité, conclut le Parmentier, il s'oppose aux autres peuples européens.
Avec déjà une première conséquence.
Ah oui, il a au moins réussi une chose, Tsipras, c'est ce que relève le Figaro en titre. Il a réussi à semer la zizanie entre la France et l'Allemagne. Et ce n'est pas, d'ailleurs, commente Philippe Gély, ce n'est pas un simple désaccord tactique, mais deux contextes politiques qui s'affrontent. Le président français ne voulant pas s'aliéner sa gauche, la chancelière allemande étant poussée à la fermeté par ses alliés. Et pendant ce temps, conclut l'éditorialiste du Figaro, eh bien l'Europe continue à courir comme un canard sans tête. C'est bien ça d'ailleurs le problème, regrette Guillaume Goubert dans La Croix, c'est que l'Europe manque toujours de cet élan politique qui pourrait briser le mur des incompréhensions. Pas faux pour Laurent Geoffrin dans Libération, c'est pas faux. Nos dirigeants qui font ce qu'ils peuvent, dit-il, dans une Europe désunie, mais ce qu'ils font n'est pas suffisant. Il est temps, conclut le patron de Libé, il est temps d'annoncer solennellement que l'Europe est prête à renégocier la dette pour atténuer les souffrances du peuple grec et pour enlever à Tsipras toute raison valable de refuser un compromis. Et puis à plus long terme, eh bien il serait temps, et ça c'est ce que demande dans l'Obs une politologue allemande, Ulrike Gerot, il serait temps de faire émerger une véritable Europe politique, car ce sera ça, dit-elle, ou le néant. Et c'est ce qu'explique aussi à sa façon François Langlais dans Le Point, que l'euro, contrairement à ce dont rêvaient ses promoteurs, l'euro ne conduit pas mécaniquement à la convergence des économies. Tout au contraire, conclut Langlais, l'homogénéité des politiques et des cultures n'est pas la résultante d'une union monétaire. Elle est la condition de son succès, et si elle n'est pas là, eh bien ça coûte cher à tout le monde.
Jean-Claude Carrière, ce feuilleton grec qu'on vit ici à Altan, il vous passionne
d'abord
aussi?
D'abord sur le Tour de France, je pensais à Antoine Blondin,
oui,
que j'ai beaucoup connu, le romancier qu'il suivait beaucoup, et qui interviewé un jour par quelqu'un, un de vos collègues, disait « Oui, la France, moi j'aime beaucoup Anatole France, mais je n'ai jamais pu réussir à faire le Tour de France.
» Très bien. Le feuilleton grec.
Le feuilleton grec, je n'ai aucune opinion là-dessus parce que je suis complètement perdu. Je vois le point de vue, je vois les deux points de vue. Il n'y en a pas que deux. Il y a trois, quatre ou cinq points de vue qui s'affrontent.
Est-ce que Costa Gavras vous a aidé à vous voir, y voir clair?
Je l'ai écouté tout à l'heure. Non, pas vraiment. mais comment y voir clair? Je crois qu'il y a certains problèmes où on ne peut pas voir clair. Vraiment. Ou même la clarté serait dangereuse. Oui. C'est parce qu'elle serait simplifiée. Ce serait une simplification de la réalité qui, dans ce cas-là, est très complexe.
Mais il y a des questions de conflit de légitimité ou de, oui, ou de démocratie qui sont...
Mais je me souviens d'un armateur grec à la télévision, il y a 3 ou 4 ans, qui disait « Mais moi, je ne fais pas d'impôts. Oui. » Moi, l'idée de payer des impôts lui paraissait tout à fait extravagante. Il y a des pays qui paient des impôts.
Retour à la revue de presse, Yves Decamps, la Grèce et le PSG, même combat.
Comparaison osée, signée d'Ernesto Paolillo, l'un des fondateurs du fair play financier imposé au club de foot par l'UEFA. Il réagit dans Le Parisien à la suppression annoncée des sanctions contre le PSG et c'est pour lui un signal très négatif. L'UEFA, dit-il, se comporte avec le PSG comme l'Europe vis-à-vis de la Grèce. C'est un manque de fermeté qui ouvre une brèche à tous ceux qui voudront contourner les règles du fair play. Voilà, c'est un point de vue. Ce n'est pas celui du journal, du Parisien, qui se réjouit de ce que Paris soit libéré de ses chaînes. Ou bien, comme le journal L'Équipe, que Paris puisse se remettre à rêver et se lancer dans un mercato qui promet. Ce qui nous ramène au sport et au Tour de France, puisqu'on est à J-2. Le Tour dont on a vu tout à l'heure les enjeux économiques, mais ce n'est pas ça évidemment qui déplace les foules. Le Tour, c'est d'abord une épopée sportive dont on a tous des souvenirs émus. À lire également dans le 1, les grandes légendes de la Grande Boucle, parfois racontées par de grands écrivains, Blondin, Nucera, ou des journalistes comme Albert Londres, de grands vainqueurs et aussi de grands vaincus comme René Vietto, le galérien de la morale que racontait justement Louis Nucera. Vietto qu'on retrouve également dans le magazine Society, dans la liste des losers magnifiques du Tour. C'était en 1934 dans la descente du Puy-Morin, en quête du maillot jaune. Il avait 20 ans, il avait dû se sacrifier pour son leader Antonin Magne en lui cédant sa roue. « Ton tour viendra », lui disait-on. Sans jeu de mots, mais quand arrivèrent ses meilleures années, eh bien le monde était en guerre et Vietto ne gagna jamais le Tour, un peu comme le plus célèbre des deuxièmes, tellement populaire que le documentaire qui lui sera consacré lundi sur France 3 a été titré « Poupou premier », un documentaire signé Patrick Jeudy, fan absolu de Poulidor, le héros de son enfance, et qui raconte à Télérama sa rencontre avec lui, chez lui, dans les Limousins, et c'est là que ça se gâte. Quand je lui ai demandé s'il accepterait de participer au film, raconte Patrick Jeudy, eh bien Poulidor a dit non, expliquant que ça lui prendrait beaucoup trop de temps, et en me reprochant de ne pas avoir pris les patins en entrant. Voilà pourquoi le film est exclusivement composé d'archives, et voilà comment une légende en a pris un sacré coup. Bonne journée.
Merci, c'était Yves Decamps pour la revue de presse sur Inter.